Vous écoutez, on lit pour vous.
La ville de Surrey, au rang tant convoité d'une collectivité amie des aînés de la province. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, publié le 29 janvier 2026 dans La Source. Grâce à son approche age-friendly, révisée en 2024, la ville de Surrey continue à mettre en avant des programmes et services inclusifs pour les personnes âgées. Marie-Paul Berthiaume, initiative de journalisme local, journal La Source. L'approche Age Friendly BC, collectivité amie des aînés de la Colombie-Britannique, découle d'un partenariat entre le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique et la BC Healthy Communities Society. L'Organisation mondiale de la santé appuie la province dans son engagement à favoriser la participation sociale, l'inclusion et la qualité de vie des personnes âgées. Depuis 2012, la ville de Surrey est reconnue comme une collectivité accueillante pour les aînés de 55 ans et plus, qui représente 28% de sa population selon le recensement de 2021 de Statistique Canada. Au total, 62 villes en Colombie-Britannique ont revu leurs politiques, services et espaces pour mieux répondre aux besoins de leur population âgée. Des initiatives variées. Depuis le lancement de la politique en 2014, nos initiatives n'ont cessé d'accroître, explique Sarah Lee Tordevine-Tatarin, gestionnaire de la stratégie des collectivités amies des aînés à la ville de Surrey. Notre objectif est de garantir que les aînés aient accès à des programmes, services et ressources qui améliorent leur qualité de vie. Selon elle, le succès remarqué de la municipalité de Surrey auprès de ses aînés repose sur des collaborations avec des organisations telles que l'Autorité de la santé régionale Fraser Health Division of Family Practice, la compagnie de transport TransLink, ainsi que de nombreux services communautaires. La gestionnaire encourage les aînés à consulter la programmation pour rester actifs, s'informer et créer des liens dans la communauté. Offert depuis 2008 en plusieurs langues, les forums pour les aînés abordent différents thèmes tels que la sécurité, le bien-être, le logement, le transport et la technologie. Sarah Lia Tosdivine-Tatarin met de l'avant le programme Walk Kit, qui offre aux aînés des randonnées hebdomadaires guidées afin d'améliorer leur mobilité, de découvrir Surrey et de créer de nouveaux liens, ainsi qu'une carte interactive pour planifier des parcours adaptés à leurs besoins. Un nouveau départ pour Immigrants, arrivé au Canada il y a un peu plus de 2 ans, Surrey représente un environnement où elle se sent libre et autonome malgré son anglais limité. Celle qui préfère ne pas divulguer son nom de famille est en attente d'une résidence permanente. Originaire de la République démocratique du Congo, Emerance a vécu seule pendant 18 ans en Afrique du Sud avant de retrouver ses 3 enfants en Colombie-Britannique qui souhaitaient prendre soin d'elle. Installée au nord de Surrey avec sa fille, cette dame de 72 ans, qui emprunte régulièrement les transports en commun, se dit généralement entourée de passagers bienveillants. Les trajets sont parfois longs, mais dès que vous connaissez l'horaire, vous vous préparez pour arriver à destination à temps. La septuagénaire cherche aujourd'hui à étendre son cercle social et à explorer les ressources destinées aux personnes âgées de sa région, en particulier celles liées à la santé, puisqu'elle est atteinte de diabète. Avec le soutien de l'Association des femmes africaines francophones, elle travaille actuellement à lancer une entreprise de tricot avec sa fille. J'ai toujours tricoté. J'explore donc la possibilité de créer une entreprise afin de contribuer financièrement au foyer. Une intégration réussie. Jennifer Markbank a quitté le Royaume-Uni il y a 20 ans pour s'installer à Surrey. La professeure à l'Université Simon Fraser concentre présentement ses recherches sur la maltraitance envers les personnes âgées et le vieillissement en santé. C'était la ville de Surrey au rang tant convoité d'une collectivité amie des aînés de la province, la source, un texte de Marie-Paul Berthiaume, publié le 29 janvier 2026 dans La Source.
Petite histoire des interventions américaines en Amérique latine, un texte d'Hélène Cooper du New York Times, paru le 4 janvier 2026 dans la presse. Donald Trump, qui a récemment gracié un ancien dirigeant latino-américain condamné pour trafic de drogue, a lancé une action militaire contre un autre dirigeant qui l'accuse d'expédier drogue et criminels aux États-Unis. L'Amérique latine est habituée à l'ingérence de son puissant voisin. L'histoire militaire américaine dans la région est marquée par des revirements, des contradictions et des gaffes. Au Panama, les troupes américaines ont pris des tamales, un mets traditionnel autochtone, pour de la cocaïne. Au Mexique, ils ont pourchassé durant des mois, en vain, un ancien allié devenu opposant. Sans oublier les nombreuses machinations de la CIA dans la région, ou encore l'affaire Iran-Contra, un scandale politique si tordu qu'on n'essaiera même pas de le résumer dans cet article. À présent, Washington vient de capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro, pour le juger aux États-Unis après avoir lancé une attaque de grande envergure contre son pays. Et ce, après que la marine américaine eut tué des gens par dizaines dans la mer des Caraïbes, les accusant de trafic de drogue. Voici quelques exemples de changements de régime par la force en Amérique latine. 1898, Cuba. La guerre hispano-américaine de 1898 a donné lieu à plusieurs interventions américaines en Amérique latine, en particulier à Cuba. Le cuirassé USS Maine a été envoyé à La Havane en janvier 1898 avec comme mission déclarée de protéger les ressortissants américains. Le 15 février, une mystérieuse explosion l'a coulé. Les États-Unis ont imposé un blocus naval à Cuba et déclaré la guerre à l'Espagne. Ils ont attaqué Porto Rico, puis les Philippines et Guam dans le Pacifique. La guerre s'est terminée avec le traité de Paris le 10 décembre 1898. Porto Rico, Guam et les Philippines sont devenus des territoires américains. L'Espagne a aussi renoncé au contrôle de Cuba. Les Marines avaient débarqué à Guantanamo à Cuba en juin 1898 et s'étaient vite emparés de toute l'île. Ce fut le début de 35 ans d'intervention des Marines en Amérique centrale et dans les Caraïbes, surnommées les « guerres de la banane ». Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était la description de tâches des Marines, explique Mark F. Kanchian, conseiller au Centre d'études stratégiques et internationales et colonel à la retraite des Marines. Leur gagne-pain, c'était la déstabilisation et le renversement de gouvernement d'Amérique latine. 1912, Nicaragua. Le Nicaragua était en révolte contre son président de droite et pro-américain lorsque les Marines débarquèrent dans le pays dans le but déclaré de protéger les actifs américains. Très vite, cela devint une intervention militaire directe et marqua le début de 21 ans d'occupation du Nicaragua. 1914, Mexique. Les tensions États-Unis-Mexique étaient vives en 1914. Le Mexique était en proie à des convulsions politiques fomentées par son voisin du Nord. L'année précédente, les États-Unis avaient orchestré un coup d'État pour renverser un président mexicain au profit d'un remplaçant plus pro-américain, avant de changer d'idée et de soutenir le bandit et chef révolutionnaire Pancho Villa pour destituer celui qui avait brièvement été leur homme à Mexico. Puis arriva un incident. En avril 1914, le gouvernement mexicain arrêta 9 marins américains pour avoir pénétré dans un dépôt de charbon, le carburant des navires à l'époque, interdit d'accès à Tampico, sur la côte est du pays. Le Mexique libéra les marins, mais les États-Unis exigèrent des excuses et un salut de 21 coups de canon. Le Mexique accepta de présenter des excuses, mais refusa le salut. Le président Woodrow Wilson ordonna un blocus naval du port de Veracruz dans le sud. Mais avant que l'ordre fût exécuté, on l'informa qu'une cargaison d'armes était en route pour le Mexique en violation d'un embargo américain sur les armes. La marine américaine s'empara du port de Veracruz et l'occupa pendant 7 mois. 1915. Haïti. Après l'assassinat du président haïtien Vilbrun Guillaume Sam, qui venait de faire exécuter 167 prisonniers politiques, le président Wilson fit débarquer les Marines dans le pays. La mission officielle était de rétablir l'ordre en Haïti, alors en plein chaos. Or, l'instabilité avait été empirée par les actions des États-Unis, comme la saisie des réserves d'or haïtiennes pour rembourser ses dettes. Les Marines sont restés 19 ans avant de se retirer finalement en 1934. Vous écoutez « Petite histoire des interventions américaines en Amérique latine », un texte d'Hélène Cooper du New York Times, paru le 4 janvier 2026 dans la presse. 1915, Mexique. En 1915, les États-Unis s'étaient retournés contre Pancho Villa, dont on a parlé plus haut, et fournissaient le transport ferroviaire aux forces anti-Villa. Villa réagit en s'en prenant aux soldats, aux citoyens et aux avoirs américains dans le nord du Mexique et le sud-ouest des États-Unis. Le 9 mars 1916, les troupes de Villa attaquèrent un poste de l'armée américaine au Nouveau-Mexique, tuant 8 soldats et 10 civils, blessant 8 autres personnes et prenant chevaux, mules et mitrailleuses. Wilson envoya des troupes de l'armée américaine au Mexique pour retrouver Villa dans le seul but de le capturer et de mettre fin à ses incursions. Elles le recherchèrent pendant près d'un an, mais ne le trouvèrent jamais et rentrèrent en 1917. Villa finit par prendre sa retraite et il fut tué en 1923 dans une embuscade menée par Jesús Salas Barraza, qui affirma que son acte avait été motivé par une querelle au sujet d'une femme. L'incapacité des Américains à capturer Villa en fit un héros populaire au Mexique. Chaque fois que les États-Unis se sont posés en arbitre des affaires intérieures, ils ont faussé le processus politique, constate Miguel R. Tinker Salas, professeur émérite d'histoire et d'études latino-américaines au Pomona College. 1983, Grenade. Les États-Unis ont accusé le gouvernement de la Grenade, petit pays insulaire au large du Venezuela, de construire un aéroport qui permettrait à l'URSS de projeter sa puissance dans la région. La longue piste d'atterrissage, disait-on, allait permettre aux Soviétiques d'y envoyer des armes par avion cargo géant. Une crise politique à la Grenade, cet automne-là, a conduit à l'exécution de son premier ministre. L'armée a annoncé un couvre-feu et menacé toute personne se trouvant dans les rues d'être abattue sans sommation. Le 25 octobre, à l'aube, le président Ronald Reagan envoya 7600 soldats, dont deux bataillons de Rangers, la 82e division aéroportée, les Marines, les commandos Delta et les Navy SEALs, appuyés par des avions de combat et des hélicoptères de l'armée américaine. Il justifia cette intervention par la nécessité de protéger 600 étudiants en médecine américains présents dans le pays. Les troupes américaines ont rapidement maîtrisé les 1500 soldats grenadiens impliqués dans la défense du pays, balayant toute résistance organisée en quelques jours. L'armée a été chassée du pouvoir et remplacée par un gouvernement provisoire. Le 3 novembre, Reagan a annoncé que la mission avait été menée à bien. 1989, Panama. Le général Manuel Noriega, chef militaire du Panama, entretenait des liens de longue date avec la CIA et son directeur, George H. W. Bush, qui allait être élu président. Des années 1960 aux années 1980, les États-Unis ont payé Noriega pour qu'il nuise aux sandinistes au Nicaragua et aux révolutionnaires du Front Farabundo Martí de Libération nationale au Salvador. Il collaborait aussi avec la Drug Enforcement Administration pour limiter les trafics de drogue illégales tout en blanchissant l'argent de la drogue à son profit. Mais vers 1986, les médias américains ont révélé les activités criminelles de Noriega, qui avait pris le pouvoir en 1984. Reagan lui a demandé de démissionner. Le général et dictateur a refusé. Les tribunaux américains l'ont inculpé de trafic de stupéfiants. Noriega a demandé et reçu une aide militaire de Cuba, du Nicaragua et de la Libye, trois pays proches des Soviétiques. Le général a survécu à des tentatives de coup d'État, puis fait annuler une élection en 1989. Le 15 décembre 1989, le Panama a déclaré l'état de guerre avec les États-Unis. La nuit suivante, quatre militaires américains ont été arrêtés à un barrage routier au Panama. L'un d'eux a été abattu. Bush a ordonné l'intervention des troupes américaines pour renverser Noriega, qui a par la suite été extradé aux États-Unis et condamné à 40 ans de prison. C'est ainsi qu'arrive l'histoire des Tamales, le mets autochtone que l'armée américaine a confondu avec de la drogue. Peu après l'arrivée des troupes américaines au Panama, fin décembre 1989, elles ont annoncé avoir trouvé 50 livres de cocaïne, 23 kilos, dans une propriété utilisée par Noriega. Le chef du commandement sud des forces américaines a renchéri. Il s'agissait en fait d'une saisie de 110 livres de cocaïne, 50 kilos. Le mois suivant, après que Noriega, réfugié dans l'ambassade du Vatican, se soit rendu le 3 janvier, le département de la Défense a publié un démenti. Un porte-parole a déclaré aux journalistes que le Pentagone avait reçu du renseignement moins que satisfaisant de la part des troupes au Panama. La cocaïne, a-t-il dit, était en fait des tamales, ce succulent mets précolombien qu'on fait cuire dans des feuilles de bananier ou de maïs. C'est un matériau de liaison, avait déclaré la major Katie Wood au Los Angeles Times, avant d'ajouter, espérant sans doute être plus clair, « C'est une substance qu'ils utilisent dans les rituels vaudous. » 1994, Haïti. 60 ans après leur première intervention en Haïti, les Marines sont revenus, cette fois accompagnés de troupes de l'armée de terre, après que le président Bill Clinton eut ordonné à l'armée américaine de rétablir le président Jean-Bertrand Aristide, qui avait été démocratiquement élu puis rapidement renversé. 10 ans plus tard, Aristide était tombé en disgrâce auprès de Washington et a été renversé lors d'un coup d'État orchestré par les États-Unis et la France, l'ancienne puissance coloniale du pays. C'était Petite histoire des interventions américaines en Amérique latine, un texte d'Hélène Cooper du New York Times, paru le 4 janvier 2026 dans la presse.
Dans le volet « Notre dépendance aux écrans », un second texte, « Défi 10 jours sans écran », une prof de Varennes en mission, un texte de Camille Despelletier, publié dans la presse du 2 février 2026. Une enseignante québécoise a décidé l'an dernier d'inscrire son école au défi 10 jours sans écran popularisé en France. Une tâche colossale, mais qui porte de ses fruits et fait des petits. Priscilla Therrien enseigne aux élèves de 4 ans à l'école du Carrousel à Varennes. Citation, « Je vois que dans ma classe, il y a de plus en plus d'élèves avec des difficultés pour ce qui est du développement du langage, de la motricité fine et globale, de la gestion des émotions et de la capacité d'attention », souligne celle qui enseigne depuis plus de 20 ans. Sa réflexion est semblable à celle de plusieurs enseignants que nous avons rencontrés en France, mais elle a dû faire face à des contraintes supplémentaires lorsqu'est venu le temps d'organiser le défi. D'abord, présenter l'activité à ses collègues, à la direction de son école, puis au conseil des enseignants et enseignantes. Ensuite, elle a dû créer du matériel pédagogique pour expliquer les enjeux liés aux écrans, identifier des activités de remplacement pour les jeunes, ainsi que créer une grille pour permettre aux participants de compter leurs points pour chaque période de la journée où ils ont réussi à ne pas utiliser d'écran. Citation, « Le nombre d'heures de travail que ça a pris, c'est incroyable. Des soirs, des fins de semaine, pendant plusieurs semaines. » Fin de citation, Priscilla Therrien. Avoir du matériel fourni aurait allégé sa tâche, comme l'ont souligné de nombreux enseignants que nous avons rencontrés en France. Citation, « Là-bas, le défi vient avec un cahier d'une 20aine de pages. Je ne peux pas faire venir ça et payer les frais de transport. Je ne peux pas non plus imprimer un cahier de 20 pages pour chaque élève alors que l'on compte les sous dans les budgets scolaires », indique Priscilla Therrien, fin de citation. La présence de matériel est cruciale pour que les enseignants embarquent, selon elle. Citation, « Il faut que ça arrive clé en main. » Fin de citation. Plus de 300 participants. L'an dernier, ce sont plus de 300 élèves de l'école du Carrousel qui ont participé au défi. Dans sa classe de 6e année, Stéphanie Desrochers a eu plusieurs discussions avec ses élèves. Citation, on se demandait, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait hier soir pour éviter d'utiliser les outils technologiques? Qui a réussi à ne pas l'utiliser au retour de l'école? Qu'est-ce que vous avez fait? Histoire de donner des idées à ceux qui tournent un peu en rond, raconte-t-elle. Stéphanie Desrochers est elle-même mère de 2 enfants. Le simple fait de comptabiliser les heures passées devant les écrans lui a fait prendre conscience de la vitesse à laquelle l'heure totale enfle. Lauriane Touin y a participé avec ses 4 enfants. L'enseignante remarque plusieurs bonnes habitudes ont perduré depuis, comme celle de ne pas utiliser d'écran le matin avant l'école ou juste avant le coucher. Même chose pendant les repas. Citation, avant, on avait une télé dans notre salon et quand on était assis à table, on pouvait la voir. Maintenant, elle est au sous-sol, donc on n'a vraiment pas d'écran accessible à table, dit-elle. Parmi les nouvelles habitudes, au souper, chaque membre de la famille détaille un moment fort et un moment plus difficile de sa journée. Un point revient dans la discussion. Plus les enfants vieillissent, plus la limitation du temps d'écran est difficile. L'enseignante de première année, Isabelle Jean, est maman de jumeaux qui viennent d'entrer au secondaire et elle compte bien les faire participer au défi cette année, avec ou sans leur établissement. Citation, « J'y tiens beaucoup, parce qu'à la maison, on avait remplacé les écrans par des moments en famille. » Fin de citation. Isabelle Jean. Marie-Ève Bouchard accompagnera aussi ses élèves de cinquième année dans le défi. Elle est impressionnée du temps que ceux-ci passent à jouer à des jeux vidéo, au point où ils ont parfois de la difficulté à dire ce qu'ils ont fait d'autre durant une fin de semaine, souligne celle qui est aussi mère de deux adolescents. Partout à Varennes, l'école du Carrousel participera de nouveau au défi en 2026, mais Priscilla Terrien ne compte pas s'arrêter là. Elle espère que d'autres établissements de Varennes se joignent à elle. Les écoles primaires de La Source et les Marguerites ont déjà confirmé leur intérêt, rapporte-t-elle. Elle aimerait également que la ville s'implique, par exemple, en offrant des activités spéciales durant cette période. Un encadré complémentaire, des préoccupations partagées. Même si le défi du jour sans écran n'est pas très connu au Québec, beaucoup d'écoles d'ici semblent se préoccuper du temps que passent les jeunes devant les écrans. Des ateliers et des conférences s'adressant au personnel ou aux parents sont organisés ponctuellement. Par exemple, en janvier, le comité de parents des écoles de Montréal a organisé une présentation virtuelle à ce sujet avec le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, le CIEL, C-I-E-L. Les parents ont pu y obtenir des outils pour mieux gérer le temps d'écran de leurs enfants et pour savoir comment aborder la question avec eux. Et c'est la fin de ce texte titré « Défi 10 jours sans écran, une prof de Varennes en mission ». Publié dans le volet « Notre dépendance aux écrans » du dossier « Enquête de solutions » du journal La Presse et publié dans l'édition du 2 février de ce journal. Le prochain, un espace de résistance.